Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage un peu particulier.
Ah oui, sans train, sans avion.
Non, juste au fil de l'eau. On va suivre une rivière, le Lot, et notre guide, c'est une source absolument fascinante.
C'est ça, un article qui s'appelle Au fil du Lot 2, rédigé par Jean-Pierre Krume.
Et ça vient du bulletin numéro 77 du Cartoclub Aveyronnais. Il faut mentionner aussi la mise en page qui est de Guy Mazars, le rédacteur en chef.
Tout à fait. L'idée, c'est de refaire le parcours du Lot en se servant de vieilles cartes postales comme...
Comme des fenêtres sur le passé?
Exactement. C'est une plongée dans la mémoire d'un fleuve.
Alors, où est-ce qu'on commence ce voyage, Sam?
Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que l'article nous prend en cours de route. Le Lot a déjà fait 250 km.
Ah oui, déjà.
Oui, on le rejoint au moment où il quitte l'Aveyron, au barrage de Montbru. Et il lui reste encore 220 km à faire.
À travers le Quercy.
Voilà. Et l'auteur Jean-Pierre Krume a cette très belle image. Il dit que le Lot est un sablier du temps.
Un sablier du temps. J'aime beaucoup.
Chaque méandre, c'est un grain de sable qui raconte une histoire.
Première escale de ce sablier, alors?
Cajarc. Aujourd'hui, c'est un nom qui évoque la tranquillité.
Oui, on pense à François Sagan, à Georges Pompidou.
Sagan a d'ailleurs eu cette phrase célèbre. Cette vallée si verte, coupée d'un fleuve si gris.
C'est une phrase magnifique.
Et les cartes postales de l'article, elles vont dans ce sens. On voit des barques, un enfant les pieds dans l'eau. C'est très paisible. Presque trop paisible même. Mais ce qui est intéressant dans la citation de Sagan, c'est que c'est justement parce que le fleuve est gris, donc chargé de sédiments, que la vallée est si verte.
Ah, c'est une lecture écologique en fait.
Oui, l'un nourrit l'autre. Mais au-delà de ça, le vrai contraste, il est historique.
C'est-à-dire?
Cette quiétude qu'on voit sur les cartes postales du début du XXe siècle, c'est une illusion. Ou en tout cas, c'est très récent.
Le passé de Cajarc était plus...
Agité.
Beaucoup plus.
Ça a été une place forte, secouée par les guerres de religion, assiégée par le prince noir.
D'accord.
Et surtout, c'était un carrefour commercial hyper important. Son pont, c'était le seul entre Entraigues et Cahors pendant des siècles.
Il faut imaginer l'animation, alors.
Exactement. Le bruit, les marchands. Rien à voir avec la carte postale de l'enfant au bord de l'eau.
Au-dessus de cette tranquillité de façade, et on suit le courant. Prochaine étape, Seignevière.
Oui, avec son château qui domine la rivière. Là, l'article note un changement dans l'agriculture.
On est passé du chanvre à la vigne et au tabac.
C'est ça, les Chénévières ont donné leur nom au village. Mais c'est juste après que le texte nous emmène sur un terrain complètement inattendu.
Ah oui.
Oui, on bascule dans une sorte de Far West industriel. La rue est vers le phosphate, entre 1880 et 1900.
Des mines de phosphate?
Dans le Quercy.
Absolument. Une vraie fièvre. On a compté jusqu'à 300 phosphatières, ces cavités naturelles.
Et ça représentait beaucoup d'emplois.
Énormément. 2000 mineurs au plus fort de l'activité. C'est colossal pour la région à cette époque.
Je n'aurais jamais imaginé ça. Et pour la rivière, quel a été l'impact? Un impact direct et immense. Ça a été une bouée de sauvetage pour la batellerie.
Qui était en déclin, j'imagine.
En plein déclin, oui. Le chemin de fer était arrivé et lui faisait une concurrence terrible.
Et là, soudain...
Soudain, il fallait transporter des milliers de tonnes de phosphate jusqu'à Bordeaux. La rivière est redevenue rentable, les gabarres ont repris du service.
L'article donne des détails assez précis là-dessus, d'ailleurs.
Oui, c'est ça qui est formidable. Jean-Pierre Krume ne dit pas juste des bateaux, il donne leur nom.
La République, le Ville d'Aubin.
Voilà. Et on apprend que la République pouvait charger 70 tonnes. 70 tonnes de minerais.
Il y a même le rapport d'un ingénieur de Figeac qui a chronométré un voyage.
Oui. 18 jours aller-retour jusqu'à Bordeaux. On imagine le trafic, l'activité sur l'eau.
Mais ça n'a pas duré.
Non. L'auteur a le mot juste. Il parle d'un faux de paille.
Pourquoi?
La mondialisation, déjà à l'époque. Vers 1900, on a ouvert d'immenses mines en Afrique du Nord. Beaucoup plus rentables.
Et le phosphate du Quercy n'était plus compétitif.
C'est ça. Les mines ont fermé. Et la rivière, elle est retombée dans le silence. Le coup de grâce... C'est 1926.
Elle est déclassée pour la navigation.
La fin d'une histoire millénaire.
On continue notre descente. Et là, on arrive à Saint-Cirq-la-Popie.
Ah, Saint-Cirq.
Là, on est dans le cliché touristique, l'un des plus beaux villages de France. L'article rappelle le coup de foudre d'André Breton.
Oui, le pape du surréalisme. Il découvre le village en 1950. Il dit que c'est une rose impossible dans la nuit.
Il a été tellement séduit qu'il a acheté une auberge et il a écrit cette phrase incroyable « J'ai cessé de me désirer ailleurs ».
C'est magnifique. Mais, encore une fois, l'article nous montre ce qu'il y a derrière la beauté des pierres.
C'est-à-dire le village au travail.
Exactement. Grâce aux cartes postales, on découvre tout un monde artisanal qui a disparu. L'auteur nous parle des roubinaires.
Des roubinaires, qu'est-ce que c'est ?
C'était des artisans qui fabriquaient des robinets en bois de buis.
Pour les tonneaux, j'imagine ?
Pour les tonneaux, oui. Ou les perroliers qui travaillaient le cuivre. Le village n'était pas un décor, c'était une ruche.
Et on imagine le son du coup, le bruit des outils qui se mêlent au bruit des rames sur la rivière en contrebas.
C'est tout un univers sonore qui a disparu.
Il y a un passage qui m'a beaucoup plu. L'auteur se laisse aller à imaginer la vie sur le port.
Ah oui, en regardant une carte postale.
Oui. Il décrit une gabarre qui arrive, chargée de tonneaux, de café et même de barils de rhum des Antilles.
C'est une façon de donner vie à l'image, de nous faire sentir l'excitation des mariniers qui rentrent au port.
On est loin du voyage de plaisance, cela dit. La rivière était dangereuse.
Très dangereuse. Et le texte est là pour nous le rappeler. Il raconte des drames terribles.
Comme le naufrage du bac de l'Arnagol.
Oui, en 1762. 60 morts.
60.
En une seule fois. C'est une tragédie inimaginable pour une petite communauté. Chaque voyage était un risque.
Et face à ce danger, il y avait la foi.
Bien sûr, le long du fleuve, il y avait des sanctuaires. Notre-Dame de Velle, par exemple, ou le fronton de l'église à la forme d'une barque.
C'est un beau symbole.
Il y a aussi la chapelle des naufragés.
Construite près d'un passage particulièrement redouté.
Oui, le rapide détrépassé. Le nom dit tout.
L'article note avec humour que ces pèlerinages se terminaient souvent...
De manière moins pieuse.
C'est ça.
Après les prières, on finissait à l'auberge en chantant à la gloire du vin de Cahors.
Le sacré et le profane. Et ça nous amène justement à Cahors, l'étape principale.
L'étape reine, oui. L'auteur la présente à travers un trio assez étonnant.
Le pape, le diable et le poète.
Exactement. Le pape, c'est Jean XXII, né à Cahors. Le poète, Clément Marot, un autre enfant du pays.
Et le diable ?
C'est la légende du pont Valentré, bien sûr. Mais c'est aussi une métaphore pour les banquiers de Cahors au Moyen-Âge. Si riches qu'on les disait...
De mèche avec le malin.
Voilà.
Mais la vraie richesse de Cahors, c'est son vin. Le vin noir.
Ah oui.
J'ai appris quelque chose de fascinant dans l'article. On l'exportait partout, mais il avait aussi un rôle stratégique.
C'est-à-dire ?
On l'utilisait pour fortifier les vins de Bordeaux, pour qu'ils supportent le voyage en bateau vers l'Amérique.
Le vin de Cahors servait de conservateur pour le Bordeaux, en quelque sorte.
C'est ça. C'est incroyable, non ?
Tout à fait. Et cette économie du vin, on la retrouve tout le long de la rivière. Elle a façonné les villages.
C'est la transition parfaite pour l'étape suivante, duel.
Dont le nom viendrait de la douelle.
La pièce de bois du tonneau. C'est fou qu'un village entier doive son nom à un morceau de barrique.
Ça montre à quel point tout tournait autour de ça. Le texte décrit une chaîne logistique entièrement fluviale.
Comment ça fonctionnait ?
Le bois de chêne était coupé en amont. Il descendait la rivière en gabarre
jusqu'au tonnelier de Douelle,
qui fabriquait les fûts. Ces fûts étaient vendus aux vignerons. Et une fois plein de vin,
il repartait sur les gabarres vers Bordeaux.
La boucle était bouclée. Et la rivière, c'était l'artère centrale de tout ce système.
L'article raconte aussi une anecdote sur les inondations de 1912.
Ah oui, les cartes postales sont incroyables. On voit une barque qui accoste devant la poste.
Mais c'est la mentalité des habitants qui est savoureuse.
Le fatalisme pragmatique.
Tant que le vin est à l'abri dans les caves, tout va bien.
Les priorités étaient claires. Mais on sent que le voyage touche à sa fin. L'ambiance devient plus mélancolique.
Appuie l'évêque, oui. Les cartes postales montrent un port désert.
Les chiffres sont terribles. 677 bateaux enregistrés en 1851. Quelques décennies après.
Plus rien. Le silence.
Et la cause, on la voit sur une autre carte postale. La gare de Castelfranc.
Le train a tout tué.
Voilà.
À Villeneuve-sur-Lot, on assiste à cette transition en direct.
Oui, les images sont frappantes. On voit les derniers bateaux tirés par des chevaux à côté des premiers vapeurs modernes.
C'était un port immense. 11 000 bateaux y sont passés en 1890. On a du mal à se le représenter.
C'est un trafic de folie.
Et le périple se termine sur une note plus écologique.
Oui, avec un poisson, l'alose. Un poisson migrateur qui remontait de l'océan par milliers pour frayer près des gouillons.
Un spectacle de la nature.
Mais l'auteur décrit une pêche devenue si intensive qu'il parle de véritables massacres. C'est un rappel que la rivière n'était pas qu'une route, mais un écosystème fragile.
Et qui a été exploité lui aussi jusqu'à l'épuisement.
C'est ça.
Au final, ce voyage travers les cartes postales, il nous apprend quoi ?
Que l'Ot n'était pas juste un cours d'eau.
Non, c'était qu'une autoroute liquide. Une artère vitale qui reliait les montagnes à l'océan, qui transportait du charbon, du vin, des hommes.
Et c'est la grande force de cet article de Jean-Pierre Croum.
Absolument. Partir d'un objet simple, la carte postale, pour reconstituer tout un monde. Un monde où la vie des gens était totalement liée au rythme et aux colères de la rivière.
C'est vraiment l'histoire d'une population vue à travers son fleuve.
Tout à fait. Et cet âge d'or, il s'arrête officiellement en 1926. Aujourd'hui, on peut de nouveau naviguer sur le Lot. Mais c'est pour le tourisme.
Pour le plaisir, oui.
Ce qui amène une dernière question, peut-être. Comment l'identité actuelle de la rivière, qui est un lieu de loisirs, de détente, dialogue avec ce passé de labeur et de danger?
C'est toute la question. Est-ce que la nouvelle image efface l'ancienne?
Ou est-ce qu'elle peut la faire revivre?
Je crois que c'est l'invitation que nous fait l'article. Il nous donne les clés pour comprendre que sous l'eau calme, il y a les fantômes des gabarres, les échos des chants des pèlerins.
Il faut savoir écouter.
Savoir écouter, au bord de l'eau, les histoires que la rivière charrie encore.